Inter, le 18-20.
Et à qui le tour ? Qui sera le prochain cadre du PS à rallier Emmanuel Macron ? Celui du jour avait adhéré à 17 ans en 1980 au mouvement des jeunes socialistes, soutien de Michel Rocard. Mais voilà, 37 ans plus tard, Manuel Valls, comme tant d'autres, ne votera pas le 23 avril pour le candidat PS, Benoît Hamon, qui lui en appelle donc solennellement aux électeurs de gauche que les mélenchonistes et communistes unissent leurs forces aux siennes. Ces deux gauches, pourtant irréconciliables, selon Manuel Valls. Alors dans tout cela, que reste-t-il du Parti Socialiste d'Épinay ? Assiste-t-on en direct à la scission, voire à l'implosion du PS ? Et quid de l'après 7 mai ? On pose ces questions ce soir et on attend toutes les vôtres, vos commentaires au 01 45 24 7000 sur internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard de France Inter, c'est Gilles qui ouvre ce téléphone sonne. Vous nous appelez de Sevran. Bonsoir Gilles, nous vous écoutons.
Ben écoutez, bonsoir. Je n'ai pas pu entendre ces informations, ou plutôt ces prévisions d'un possible éclatement du Parti Socialiste sans un peu d'émotion, car j'y ai adhéré moi-même, j'avais 22 ans, et je dirais le Parti Socialiste a été un moment extraordinaire de ma vie, j'ai pas peur de le dire, en termes de formation de l'esprit, de formation politique, d'ouverture sur la vie. J'ai vu des choses extraordinaires au Parti Socialiste, extraordinaires en ce sens qu'on ne les verra plus jamais, je pense, maintenant dans une organisation, des fraternités, des partages de savoir, des volontés de conquête, et tout ça sur la base d'idées qui étaient assez exaltantes. Donc c'est une émotion qui me prend beaucoup. Maintenant que je ne suis plus au Parti Socialiste, je me dis vive la soumission vraiment, et je dis vas-y Mélenchon, il faut absolument qu'on y arrive, on y arrivera. Je dis mon admiration à Benoît Hamon, sincère, parce qu'il a vraiment du boulot et avec ce qu'il a traîné le malheureux, vraiment je me mets à sa place et je me dis chapeau bas camarade, mais vas-y, rejoins-nous plutôt que d'appeler à ce qu'on te rejoigne. Mais je dis aussi une autre chose, c'est un témoignage en fait. J'ai un souvenir assez précis de la façon dont peu à peu une certaine idéologie a pris le pouvoir à l'intérieur du Parti Socialiste, j'étais encore jeune à l'époque, et cette idéologie, c'était une idéologie du tout marché. En fait, c'était ce que Michel Rocard avait appelé la régulation globale par le marché, de l'économie par le marché. Quand cette idée-là, qui était partagée...
Ah, nous avons perdu Gilles, qui nous appelait de Sevran. En tout cas, pour réagir, Gilles, à ce commentaire ému d'anciens militants socialistes, trois invités ce soir, Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon, député PS de Moselle et bien sûr ancienne ministre de François Hollande. Bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Poignant, ancien député maire PS de Quimper, ancien conseiller de François Hollande, désormais soutien d'Emmanuel Macron, en direct de France Bleu, Brésil. À Quimper. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Laurent Bouvet, ici également en studio, politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et membre de la fondation Jean Jaurès. Alors Aurélie Filippetti, je trahis un petit secret, vous venez juste d'arriver, donc vous n'avez pas pu entendre notre premier auditeur. Et Bernard Poignant, quand vous entendez ce récit ému de Gilles, notre premier auditeur, vous lui répondez quoi ?
Que je partage son émotion parce que je suis moi membre du Parti Socialiste depuis 43 ans et je ne veux pas qu'il disparaisse du paysage. J'ai fait personnellement un double choix. Je choisis au mois d'avril et mai, je l'espère, un président de la République, pas un dirigeant d'un parti. Jusqu'à présent, il y avait pour moi concordance entre le choix du Parti Socialiste et la fonction présidentielle. Cette fois, je décroche ce choix. En même temps, je voterai pour le candidat du Parti Socialiste aux élections législatives, parce que dans la situation que je constate aujourd'hui, je pense qu'il faut que le Parti Socialiste ait un groupe parlementaire consistant au mois de juin, soit pour être dans une opposition totale, si c'est Marine Le Pen ou Fillon qui l'emportait, soit pour être dans une coalition si Emmanuel Macron devient président de la République. Donc je ne tire pas un trait sur le Parti Socialiste. Oh, j'en mesure aujourd'hui la situation et l'ébranlement. J'ai envie de dire ça devait arriver un jour ou l'autre, parce que depuis 2002, ça fait 15 ans qu'il y a une crise sous-jacente, en tout cas latente dans le Parti Socialiste, qui s'est manifestée à quelques reprises. Par exemple, en 2005, au moment du choix du vote pour le traité européen, il s'est fracturé. Ça a été la même chose en 2008, au moment de son congrès de Reims, où il s'est divisé, y compris sur des bases frauduleuses, pour devenir premier secrétaire entre Martine Aubry et Ségolène Royal. La primaire a heureusement désigné un candidat et ça s'est bien passé. Ensuite, le quinquennat a mal démarré d'une certaine façon, puisque dans le groupe parlementaire, dès le mois d'octobre 2012, il y a eu sur un traité européen à nouveau 20 votes hostiles et 9 abstentions. Donc la fronde a commencé jusqu'à se terminer par une motion de censure au printemps 2016. Donc je vois bien qu'il y a une clarification qui doit s'opérer. Elle va s'opérer. J'espère qu'elle se traduira pas par une scission. Je n'en suis pas sûr. Et si
c'est
si
tout
ça
le thème
arrive,
de ce soir, mais on va
dans un congrès.
Bernard Poignant, on va faire tourner la parole. Aurélie Filippetti, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Bernard Poignant?
Ça devait arriver un jour ou l'autre, dit-il.
Non, d'abord ce que dit Bernard Poignant sur sa décision de voter pour Emmanuel Macron à la présidentielle et ensuite au Parti socialiste aux législatives. C'est incohérent avec le système institutionnel tel qu'il est aujourd'hui, sous la Ve République. Nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Ce genre de position, de stratégie, fonctionnerait si on était dans un régime parlementaire où le président de la République, finalement, a une fonction essentiellement représentative et symbolise l'unité de la nation, pas plus. Dans la Ve République, aujourd'hui, le président a un rôle absolument démesuré. C'est le président qui évidemment choisit son premier ministre, qui choisit les ministres et qui l'exécutif a quasiment le monopole de l'initiative des lois en France aujourd'hui. Soyons très clairs, le rôle du Parlement dans l'initiative des lois est vraiment minime. Donc l'exécutif et en particulier le président a un pouvoir absolument exorbitant. Donc vous ne pouvez pas dire je vais avoir un président que j'élis parce que finalement il a une personnalité qui me semble adéquate, mais ensuite je vote pour un parti. Non, quand Emmanuel Macron dit je veux supprimer la moitié de l'ISF, grosso modo, ce n'est pas dans le programme du Parti socialiste. Donc des députés socialistes élus en fonction des valeurs que nous avons toujours défendues aux élections législatives, on va leur demander de voter la suppression, la quasi-suppression de l'ISF? Non, évidemment que non. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence là. C'est Emmanuel Macron, président, proposera, s'il suit son programme, de la suppression de l'ISF. Donc on sera en contradiction frontale avec le programme du Parti Socialiste.
Laurent Bouvet, je vais vous demander de jouer l'arbitre entre Aurélie Filippetti et Bernard Poignant. Quand vous entendez et l'un et l'autre, vous vous dites quoi?
Oui, c'est une position qui serait impérieuse de se retrouver entre les deux trains. C'est Ségolène Royal qui disait à l'époque de la sélection entre Henri Emmanuelli, paix à son âme, et Lionel Jospin, les deux trains sont lancés l'un contre l'autre, écartez-vous des voix, en 1995, lors de la première primaire interne du Parti Socialiste pour la désignation du candidat. Là, ce qu'a dit Bernard Poignant tout à l'heure, je laisse le débat entre les deux côtés, disons, se faire. Moi, je n'ai pas à l'arbitrer en aucune manière. Simplement, ce qu'a dit Bernard Poignant sur la fin d'un cycle et la fin de plusieurs cycles, la fin du cycle du parti d'Épinay. Je crois que ce qu'avait proposé François Mitterrand en 1971, quand il avait repris le parti socialiste, qui s'était déjà un petit peu rénové avant lui, c'était l'idée de rassembler des familles à l'intérieur du PS qui n'avaient pas toujours été d'accord, et au-delà de rassembler la gauche pour gagner dans la Ve République. Aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce cycle, c'est-à-dire qu'il y a un constat de désaccord qui est profond, qui s'est fait en 2005, Bernard Poignant le rappelait, sur le référendum sur le traité constitutionnel européen, qui s'est fait, je laisse les congrès de côté, qui s'est fait pendant le quinquennat, au pouvoir, et c'est souvent au pouvoir que le Parti Socialiste fait ses évolutions les plus importantes, c'est là parce que c'est un parti de gouvernement, hein. Et puis on le voit au bout du bout avec cette élection présidentielle, avec pour la première fois un parti à travers une procédure de primaire qui a choisi un candidat qui n'est pas issu du centre ou disons d'une synthèse du parti, mais qui est issu de son aile gauche.
Non,
qui avait revendiqué
du vote, pardon, le candidat.
Il est issu du vote des militants, mais je vais terminer ce que je dis. Je vais terminer ce que je dis.
Parce que c'est une erreur factuelle très grave.
Non, c'est pas une erreur
factuelle. Il est issu du vote des primaires avec 2 millions de votants.
Oui, mais très bien. Mais
c'est pas mon point. Beaucoup plus que les votants à un congrès du Parti Socialiste.
Ce n'est pas mon point. Ce n'est pas le problème. C'est pour la première fois, donc, un vote de primaire, comme je l'ai déjà dit avant, donc là-dessus, il n'y a aucune contestation possible, qui choisit un candidat qui est issu pour la première fois dans l'histoire des candidatures du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, un candidat issu de l'aile gauche du parti, qui a contesté la ligne du parti, y compris lorsqu'il était dans la majorité, puisqu'il est sorti avec Aurélie Philippetti.
Mais il n'a pas contesté la ligne du parti. Il a contesté le fait que le parti était un parti qui soutenait le gouvernement. Si on prend la loi travail, prenons la loi travail,
je ne rentre pas dans ces impressions.
Parce que ça va devenir très cacophonique.
Je finis juste. Donc c'est un candidat qui était élu, issu d'une ligne qui a contesté ce qu'on appelait les frondeurs, la ligne du parti qui soutenait le gouvernement, qui soutenait le président de la République.
La loi travail, la déchéance de nationalité ont été contestés par le Parti Socialiste.
Qui soutenait le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et la majorité, et qui aujourd'hui se retrouve comme candidat. Ça pose une question fondamentale, historiquement. Est-ce qu'un parti de gouvernement comme le Parti Socialiste peut avoir à sa tête quelqu'un qui conteste la manière dont a été menée une partie, à partir de 2014, de la politique du gouvernement auquel il a appartenu et puis contre lequel il s'est érigé ensuite. Au nom d'idées, je suis d'accord, au nom d'une idée différente qui était appelant à respecter le discours du
On est quand même tenté de dire effectivement, il a contesté une certaine ligne Hollande plutôt que la ligne du parti.
Le parti soutenait, président de la République. Je n'ai pas entendu les dirigeants du parti, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire, et les dirigeants du parti allaient contre la ligne du gouvernement.
Je vous rappelle la position du Parti Socialiste concernant la loi travail. Alors, soyons très clairs.
Mais c'est pas le sujet.
Soyons très clairs. Benoît Hamon a gagné l'élection primaire avec une très large majorité et avec 2 millions de participants, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un congrès du Parti Socialiste. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une infime minorité de gens qui ont toujours défendu, en gros, pour simplifier, ce qu'on va appeler le social-libéralisme, qu'ils ont toujours défendu le social-libéralisme, qui a toujours été mis en minorité par le peuple de gauche, les électeurs de gauche, même la majorité des élus de gauche. Donc, ils ont perdu aux primaires, les élections, les électeurs les ont fait sortir par la porte, ils veulent rentrer par la fenêtre. Ils contestent jusqu'au résultat démocratique de cette primaire, en faisant une sorte de 49-3 de la primaire aujourd'hui. Je rappelle que, d'ailleurs, Ségolène Royal, en 2007... a vécu exactement la même chose que ce qu'est en train de vivre Benoît Hamon, et elle n'était pas issue de l'aile gauche du parti.
Ça n'a absolument rien à voir.
Écoutez, il
y a aussi Bernard Poignon qui est en train d'intervenir.
Mais c'est pas comparable. Enfin, là, on parle de choses.
Je vous expliquais la contestation de Benoît Hamon par le fait qu'il est de l'aile gauche. Je rappelle que Ségolène a été contestée alors qu'elle n'était pas de l'aile gauche.
Bon, moi, je ne rentre pas dans le... Ça, c'est très bien. Les explications par les gens qui défendent une des positions du parti, très bien. Moi, ce n'est pas mon cas. Simplement, pour la première fois, il y a un candidat qui n'est pas issu de la synthèse générale du Parti Socialiste et qui est plutôt un représentant de son aile gauche et qu'il a été en partie dans le quinquennat qui vient d'avoir lieu alors que le parti est au pouvoir. Première chose. Deuxième chose, Benoît Hamon, aujourd'hui, fait moins dans les intentions de vote. On verra le résultat, on reste prudent là-dessus, mais fait moins que Jean-Luc Mélenchon parce que lui a contesté dès le départ dans le quinquennat, les orientations. Donc il a plus de légitimité. Or, si les électeurs de gauche, ce peuple de gauche dont parle Aurélie Philippetti, acceptons ce terme, avec ce qu'il enjoint, étaient convaincus par la ligne défendue par Benoît Hamon, ils iraient plutôt vers Benoît Hamon que vers Jean-Luc Mélenchon ou que, pour une partie d'entre eux, vers Emmanuel Macron. Donc il y a quelque chose là que je ne comprends pas, qui est de dire Benoît Hamon, c'est la légitimité du Parti Socialiste parce qu'il y a eu la primaire, parce que c'est la vraie gauche, parce que c'est comme ça, parce que cette contestation était légitime, etc. Tout ça, je peux l'entendre. Mais le problème, ce sont les faits. Aujourd'hui, Benoît Hamon a choisi une stratégie qui est une stratégie par la gauche, qui se heurte à l'obstacle Mélenchon, qui est plus légitime que lui, sur cette contestation de la majorité du quinquennat de Hollande, etc. Et une partie du Parti Socialiste, je n'évalue pas à combien, qui n'est pas convaincu par cette ligne, est en train de faire défection,
Laurent Bouvet, on l'a vu. La parole à Bernard Poignon, qui ne s'est guère exprimé. Bernard Poignon, on vous écoute.
Oui, je vais corriger les chiffres d'Aurélie Filippetti. Il y a eu aux primaires 2 millions de votants, c'est exact, mais 1 200 000 pour Benoît Hamon et 800 000 pour Manuel Valls. Il faut quand même pas mélanger les deux. Ensuite, il y a un programme présidentiel au Parti Socialiste. Il a été élaboré dans les fédérations, dans beaucoup en tout cas. Il a été écrit dans ce qu'on appelle les cahiers de la présidentielle. Ça donne 6 livrets plus un livret de synthèse. Je les ai personnellement lus, comme j'ai lu le programme des primaires de Benoît Hamon. Et c'est vrai que Benoît s'en écarte très largement. Il y a beaucoup de choses de
beaucoup moins qu'Emmanuel Macron.
Je lui reproche rien, mais j'ai le droit de commenter et d'avoir mon appréciation. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été débattues. Je prends le revenu universel. Moi qui suis depuis 43 ans au Parti Socialiste, jamais ça n'a été débattu en son sein et dans ses instances. Je peux dire aussi la même chose du 49-3 citoyen, mais je ne vais pas allonger la liste. Et puis il y a un autre aspect qui a beaucoup perturbé des électeurs socialistes, c'est l'accord Hamon-Jadot qui n'a pas été fait avec le Parti Socialiste, qui n'est toujours pas validé par les instances du Parti Socialiste et qui comprend des dispositions très étonnantes, moi qui m'ont en tout cas heurté, puisqu'il prévoit la création d'un vice-premier ministre, chargé du développement durable, c'est-à-dire pour un écologiste, alors que ce n'est pas prévu par la Constitution. Je trouve que ce n'est pas digne de quelqu'un qui a comme perspective de conduire l'État. De
même qu'il annonce bien dans que, cette... Il semblait bien que le président François Hollande avait proposé un poste à peu près similaire à Nicolas Hulot pendant ce quinquennat.
Ah non, c'est faux ça. C'est pas vice-premier ministre. Vice-premier ministre, c'est autre chose.
C'était un très grand ministère de l'écologie.
Mais un grand ministère, c'est pas vice-premier ministre.
Grand ministre d'État.
Ensuite, cet accord prévoit, ce qui est étonnant, ce qui n'a jamais été beaucoup dit, la dissolution de l'Assemblée nationale en cours de mandat quand le scrutin est changé. Je n'arrive pas à comprendre ça. De même que figure dans cet accord électoral, donc jamais validé par le Parti Socialiste, la fin de l'état d'urgence. L'état d'urgence ne peut pas faire partie d'un accord électoral ou d'un accord entre formations politiques. C'est pas possible. C'est la lutte contre le terrorisme. C'est la menace terroriste qui décide de l'état d'urgence et toutes ces choses-là.
Bernard Poignon, on va pas redérouler totalement le programme des uns ou des autres, simplement parce qu'il y a énormément d'auditeurs socialistes déçus, socialistes heureux, qui ont envie de s'exprimer. François nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir François, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Écoutez, moi je sais pas si je veux me faire porte-parole de la voix d'un certain nombre de gens de gauche avec un grand G. Je le pense en tout cas au vu de mes relations. En tout cas, moi je voudrais dire, à contrario de ce qu'on entend un peu partout, comme quoi ce serait la catastrophe pour Benoît Hamon, pire que Ségolène Royal, etc. Moi je me félicite vraiment énormément de ce qui se passe. Je pense que c'était dans les tuyaux depuis des années et des années, depuis que le Parti Socialiste est partagé entre une ligne libérale qui s'affirme de plus en plus et une ligne vraiment une ligne de gauche. Là enfin, ça y est, il fallait que ça explose, ça y est, ça explose, c'est très bien. Et évidemment, on ne peut que regretter un non-accord sans doute avant le premier tour entre Mélenchon et Hamon. C'est pas grave, ça se fera après. Je pense que là, on est en bonne voie vers la création d'une gauche sociale, écologique et anti-mondialisation, avec tout ce que ça implique de protectionnisme, etc. Il y aura des réflexions, des chantiers. Enfin, il y a des idées. Enfin, il y a de l'espoir, je pense. Et l'utopie est en marche, et l'utopie, c'est créateur d'avenir pour beaucoup de gens, et je pense qu'il y a énormément de gens qui attendent ça depuis longtemps de la gauche, entre guillemets, donc sans compter le feu, le Parti Socialiste dedans. Donc moi je dis...
Ça y est, vous l'avez enterré.
Comment ?
Ça y est,
oui,
vous l'avez enterré.
Je pense que, en tout cas, le Parti Socialiste est mort, vive le socialisme social écologique. Écologiste, voilà.
Mais écoutez, merci beaucoup de cet enthousiasme, François. Avant de faire réagir nos trois invités, j'aimerais qu'on écoute Yves qui nous appelle d'Avignon. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir. Après toutes ces explications qui vont chercher dans l'histoire compliquée du PS, je voudrais revenir à des choses simples autour du respect des engagements et de la parole donnée. Il y a eu des primaires, il y a un candidat qui a été désigné, les gens qui ont participé aux primaires ont accepté les règles du jeu. Et Jean-Christophe Cambadélis, si je ne me trompe pas, avait bien dit, annoncé que seraient exclus celles et ceux qui ne soutiendraient pas le candidat issu de la primaire. J'ai toujours rien entendu de ce côté-là. Et je voudrais savoir si Valls et autres auront l'appui du PS aux législatives. Et dans ce cas-là, le militant que je suis ne pourra qu'en tirer les conséquences.
Alors Aurélie Filippetti va vous répondre tout de suite, Yves, et ensuite on répondra à François.
Il a été très clair, il a indiqué qu'il n'y avait aucune double appartenance possible et que ceux qui soutenaient Emmanuel Macron n'étaient plus membres du Parti Socialiste.
Réponse claire, Bernard Poignant.
Si au palmarès des trahisons, puisque le mot est souvent employé, vous savez qu'il y aurait depuis 2012 beaucoup de médaillés sur la scène. Les statuts du Parti Socialiste prévoient que dans un groupe parlementaire, lorsque des députés ne suivent pas la majorité du groupe, ils doivent être exclus. Ça va faire ou ça ferait beaucoup de monde. Et surtout quand des parlementaires décident de mettre leur signature sur une motion de censure pour renverser le gouvernement nommé par le président, les statuts prévoient l'exclusion. Personnellement, je pense que il ne faut pas exclure. L'excommunication est une méthode pontificale qui a été longtemps utilisée en termes d'hérésie. L'exclusion est une méthode stalinienne qui a été utilisée pour déviationnisme. Je pense que le Parti Socialiste ne doit pas être un parti sectaire et il doit rester très ouvert. Là, il traverse une crise très profonde, mais je pense qu'elle ne se résoudra pas à coup d'exclusion.
Alors je reviens à François, cet auditeur très enthousiaste. C'est l'occasion de recréer quelque chose, nous dit-il. Voilà.
Moi je trouve ça bien que des auditeurs réagissent comme ça, que des gens de gauche réagissent comme ça. Après tout, c'est eux qui ont les cartes en main pour le vote au premier tour et au second tour de l'élection présidentielle. Donc effectivement, on voit qu'il y a des convergences profondes, qu'il y a une attente, une aspiration profonde du peuple de gauche à avoir une gauche qui s'affirme et qui soit aussi une gauche écologiste d'ailleurs. On a rassemblé autour de Benoît Hamon non seulement d'ailleurs des écologistes, hein, mais aussi les radicaux de gauche. Il faut le dire. Il y a des convergences avec beaucoup de ce qui se fait dans les collectivités, avec les élus communistes qui peuvent participer à des majorités localement. Et je ne sais pas ce que sera l'avenir du Parti Socialiste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la gauche, elle est bien, bien vivante dans ce pays. Et elle n'aspire qu'à une chose, c'est qu'à se faire entendre.
Laurent Bouvet, François, notre auditeur, disait le PS est mort, vive le socialisme.
Oui, enfin, moi j'ai... Bon, encore une fois, moi je n'ai pas à prendre parti là-dedans. Simplement, aujourd'hui, une gauche utopique, telle que l'auditeur l'a décrite, socialisme, la vraie gauche, la gauche avec un grand G.
Pas forcément utopique non, mais,
c'est ce qu'il
François,
a dit.
Mais...
Non, c'est ce qu'il a dit. C'est son terme. Écoutez, j'invente pas de terme.
Bon, non, mais quand on l'écoute, on sent qu'il... Voilà.
Bah oui, c'est très bien.
Il y a une volonté d'être positif.
Utopique, la vraie gauche, la gauche avec un grand G, c'était les termes qu'il emploie. Donc je reprends ces termes, il n'y a aucune... Simplement que tout cela, si l'on additionne, et on verra le soir du 23 avril le score de Benoît Hamon, celui de Jean-Luc Mélenchon, on pourrait additionner quelques autres candidats éventuellement, Nathalie Arthaud, Poutou, etc., Philippe Poutou, que ça représente aujourd'hui 25%, de l'électorat, moi, je trouve que c'est un très mauvais signe. Je ne vois pas où est... Où on peut se réjouir de cela.
Bah pourquoi ?
Parce que en face, il y a un Front National qui représente entre lui-même un quart et un tiers de l'électorat. Mmh. On a ce que vous critiquez, et vous avez, de votre point de vue, tout à fait raison de le faire, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je pars sur la droite de Fillon, et un centre que vous ne considérez pas comme de gauche avec Emmanuel Macron. Donc se réjouir qu'on représente une toute petite partie de l'électorat et qu'on va être dans l'opposition, qu'on va jouer un rôle beaucoup plus limité, etc., c'est une difficulté dans un système politique où on accepte d'être un parti de gouvernement. Et ça va être une des ambiguïtés demain, après l'élection, quel que soit son résultat, de cette gauche, qui va devoir partager avec une partie, et là aussi peut-être qu'il y aura quelque chose d'irréconciliable à l'intérieur de cette gauche, de la gauche, de ces 25%, entre une partie de la gauche qui ne veut pas gouverner, C'est d'ailleurs une des difficultés qu'a lui-même Jean-Luc Mélenchon, pris entre un parti communiste qui accepte de participer au pouvoir localement et éventuellement nationalement, et puis une gauche du mouvement social, etc., qui refuse le gouvernement et de passer par les institutions politiques, etc. Donc, si demain le parti socialiste ou son héritier, le socialisme dont parlait notre auditeur, avec sa composante écologique, se retrouve dans cette espèce de masse indistincte dans laquelle il y a des divergences très fortes sur le simple fait de savoir si on veut gouverner ou pas, on aura dans ces 25% une incapacité politique. Alors que aujourd'hui, la nécessité face au Front National en particulier, bon après on peut être de gauche et dire ce qu'on veut, mais enfin il y a quand même un impératif aujourd'hui qui est particulièrement fort, ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il faut le prendre en compte comme au premier tour, comme le dit Manuel Valls? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, il faut le prendre en compte dans son équation générale. Par rapport au pouvoir, il me paraît très très étrange de se réjouir de cette situation parce qu'on serait enfin de gauche, tranquille, loin du pouvoir, détaché de toutes les
Bernard nécessités. Bernard Poignon.
Oui.
Quand vous entendez l'analyse de Laurent Bouvet, vous dites quoi?
Alors, je pense que la crise, si je puis dire, va démarrer le 23 avril à 20h. Quand on connaîtra les deux compétiteurs pour le 7 mai. Je crois d'ailleurs, et je le dis à Aurélie, il est fort probable qu'on ait à ce moment-là le même candidat. Si Marine Le Pen est au second tour, on aura le même candidat pour la battre. Donc je suggère de ne pas insulter l'avenir. Ensuite, il y aura les élections législatives et je crois qu'à ce moment-là, au Parti Socialiste, ça sera très difficile parce que si le candidat Benoît Hamon n'est pas au second tour, sur quel programme vont aller les candidats investis par le Parti Socialiste? C'est une difficulté puisque ça voudrait dire que le programme de Benoît Hamon n'est pas accepté par le corps électoral et c'est quand même lui qui décide, hein, l'ensemble des Français. Je pense d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut revenir au programme initial du Parti Socialiste, qui lui est un programme de gouvernement. Et ensuite, ça se prolongera au-delà du 18 juin. C'est pour ça que moi, je voudrais qu'il y a quand même un groupe relativement consistant dans le cas de figure que j'évoque. Il y aurait ceux qui voudraient s'associer à une majorité présidentielle, si c'est Emmanuel Macron notamment, et ceux qui le voudront pas. Donc ce que je pressens, ce que je prévois presque, c'est que au lendemain du second tour de la présidentielle, hein, qui est le 18 juin, donc là ça sera le 20 ou le 21, les députés élus se retrouveront à l'Assemblée nationale, iront chercher leur petite mallette, mais sont-ils capables de constituer un seul groupe avec un président et un bureau? Au contraire, à ce moment-là, vont-ils décider de se mettre en deux groupes? Et là, évidemment, ça n'attendra pas le Congrès et que c'est à cette période-là, à ce mois-là, de mois de juin, que la crise sera visible, si tant est qu'elle arrive. Je ne souhaite pas, hein, je souhaiterais plutôt que la maison reste ensemble, mais ça me paraît pas facile dans la période. Si Marine Le Pen ou Fillon étaient élus, bon, ce que je ne souhaite ni pour l'un ni pour l'autre, je pense que le Parti Socialiste, finalement, totalement dans l'opposition, continuerait à vivre ensemble ou pourrait vivre ensemble, peut-être en mettant trop de sujets sous le tapis en attendant la prochaine fois. Mais en tout cas, si c'est Emmanuel Macron qui est élu, là, il y aura forcément une plus grande clarification.
Aurélie Filippetti, en quelques mots, réaction à Bernard Poignon et après on repart au standard.
Il faudrait d'abord savoir quelle sera la majorité d'Emmanuel Macron. Et pour faire une majorité, il faudrait qu'il dise sur quelle base. Si il s'agit de dire on va supprimer 120 000 fonctionnaires et on va supprimer le compte pénibilité, ce qui est aujourd'hui ce qu'il annonce, à ce moment-là, je ne vois pas comment des candidats, des élus socialistes ou législatifs peuvent défendre cela.
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas discuter, pour être très clair.
Mais écoutez, supprimer 120 000 fonctionnaires, ça veut dire forcément, à un moment donné, taper dans l'éducation nationale, soyons très clairs. Pour moi, ça, ce n'est pas négociable. On sait que la France a besoin de continuer, ce qui a été commencé sous ce quinquennat d'ailleurs, et je le salue, mais de continuer à recruter des enseignants. Bon, deuxièmement, le compte pénibilité. Je suis désolée, si on veut lutter contre le Front National, c'est pas avec des grands discours en disant qu'il faut faire deux partis, le Front National et les autres, c'est en travaillant sur les conditions de travail des ouvriers, du monde du travail. Et dire qu'il n'y a pas de pénibilité en France, parce que dire que la pénibilité est un vilain mot qui fait penser que le travail est pénible, c'est nier la réalité de millions de personnes, de millions d'ouvriers qui aujourd'hui payent lourdement le prix de mauvaises conditions de travail sur leur santé et sur leur espérance de vie. Donc ça aussi, ce n'est pas négociable. C'est tout simplement, je crois, le fondement de l'engagement à gauche.
Non, mais on comprend bien les lignes jaunes ou rouges, comme on les appelle. On repart au standard, direction la Drôme. Jean-Claude, nous vous écoutons, bonsoir.
Oui, bonsoir et merci de vos émissions. Alors, moi, il me semblait au départ, et c'est ce qui a motivé ma question, qu'il y avait eu un double déni de démocratie. D'une part, dès le départ en 2012, quand, suite à la primaire, Emmanuel Valls, qui a 5% des voix, arrive progressivement à être Premier ministre et à appliquer une politique qui correspond à ce qu'il voulait. Il y en a un deuxième maintenant. Il y a quelque chose aussi qui ressemblait à ça, que j'ai très mal vécu. C'est le fait que des députés qui éventuellement auraient osé, mais ils ne l'ont pas fait, heureusement les Français étaient plus sages que ça, s'opposer à un gouvernement dont ils désapprouvaient la politique, étaient appelés des frondeurs, à la fois par leur parti, par l'ensemble des médias. Moi, j'ai toujours été dans l'idée qu'un député représentait les gens de sa circonscription, il était leur élu, leur porte-parole, et en aucun cas on pouvait le qualifier de frondeur. Donc il me semble que ce PS s'était coulé dans la République des Godillots, comme on disait à l'époque de De Gaulle, c'est-à-dire les gens qui votent en bloc sans réfléchir, et que c'est l'attitude qu'on attendait du moindre député PS, sous peine que ça devienne un frondeur, même simplement pour s'abstenir. Je pense que on va pas faire de la morale sur ces dénis de démocratie, mais il y a un vice de forme dans cette République, et je crois que repartir sur des basses scènes, c'est appeler, comme le fait France Insoumise, hein, le mouvement qui soutient Jean-Luc Mélenchon, à une constituante, non seulement pour changer les règles, parce que ça c'est ce qu'on voit, et ça a l'air périlleux comme tentative, mais surtout pour mobiliser notamment les 50% d'électeurs qui ne sont pas là aujourd'hui, qui ne votent pas. Et je souligne enfin une dernière chose, c'est qu'on est vraiment en République sondagière, parce que alors que la moitié de ses électeurs hésitent, M. Macron est en tête des sondages, soi-disant, etc. On n'envisage absolument pas que Mme Le Pen connaisse un coup de mou. Pourtant, les affaires et ses interventions n'ont pas été spécialement brillantes, tout ça c'est là. Donc voilà, il y a un ensemble, vous voyez, et il est temps de changer, de mettre un coup de balai, et d'aller du côté de l'espérance.
Message reçu, Jean-Claude. Laurent Bouvet, votre réaction en quelques mots, puisqu'on va essayer vraiment de
déjà,
faire parler tout le monde.
Je réagirai directement à ce que vient de dire l'auditeur, en lui conseillant de pas trop espérer l'éclatement de la bulle Le Pen, comme il a l'air de le suggérer. Je crois qu'on est dans une situation bien plus grave que ça. Sur Manuel Valls, dès le début du quinquennat, je rappelle qu'en mars 2014, quand Manuel Valls devient Premier ministre, le remplacement de Jean-Marc Ayrault se fait par un accord et un soutien de Benoît Hamon, Arnaud Montebourg en particulier, deux des principaux ministres qui soutiennent Manuel Valls pour remplacer Jean-Marc Ayrault. Donc, le curseur et la manière dont ça s'est joué est un petit peu plus compliqué que ce qu'il a dit. Tout n'est pas joué dès 2012. L'élément clé de 2012, avant même Florange, que connaît bien évidemment Aurélie Filippetti, c'est juin 2012, quand François Hollande va voir Angela Merkel et ne renégocie pas le traité budgétaire. C'est là, enfin moi je bon j'ai dit ça à l'époque. Mmh. À l'époque, je remarque que beaucoup des socialistes qui aujourd'hui sont très frondeurs, etc. Quand on leur expliquait ça, très simplement dans l'analyse, disaient mais oui, mais c'est plus compliqué, etc. Mais bon, simplement voilà, il y a un fait fondamental quand on est dans cette logique européenne simple de cadre budgétaire. Après, il est très très difficile le peu du grain à moudre qu'on va pouvoir mettre ici ou là, qui a été mis sur le CICE, le pacte de responsabilité principalement. Là, on peut juger de l'opportunité unité ou non, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est dans un cadre qui est beaucoup plus contraint et qui n'est pas défini dès le départ par Manuel Valls. Je voudrais juste préciser ça pour l'histoire, pour cet auditeur. Ça vient plus tard, cette question.
Aurélie Filippetti.
Oui, sur la renégociation, la non-renégociation du traité européen, oui, c'est effectivement l'erreur initiale. Je pense qu'ensuite, François Hollande s'est trouvé pris dans un étau. Et ça a été finalement la mère ensuite de toutes les batailles. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le programme de Benoît Hamon, il y a la volonté de créer un nouvel espace démocratique au sein de la zone euro, avec une assemblée parlementaire de la zone euro, pour donner finalement, et une assemblée issue des parlements nationaux, hein, comme ça, pour avoir justement un impact et un effet à la fois à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale, pour éviter cette coupure démocratique entre finalement ce que l'on vit dans chacun de nos pays, les politiques économiques, budgétaires, et puis la politique de la monnaie qui est aujourd'hui pilotée d'une manière qui n'est pas satisfaisante d'un point de vue démocratique. Et donc, et en cela, Benoît Hamon est profondément européen, profondément volontariste, il veut sauver le projet européen, mais en y injectant de la démocratie, pour qu'on ne revive pas le drame des politiques d'austérité qui ont été imposées de manière absurde hein, après la crise de 2008.
Bernard Poignant, j'aimerais qu'on revienne à ce que disait Aurélie Filippetti il y a deux minutes sur ces points qui seront non négociables, puisque c'est vous qui parliez d'emblée de l'après.
D'abord, elle fait parler Emmanuel Macron... En réalité, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Il n'a jamais été hostile à la pénibilité, à la prise en compte. Il faut simplement que les choses soient simples pour les entreprises. Ensuite, c'est vrai qu'il se préoccupe des finances publiques et de la dette de la France, qui est totalement zappé par Benoît Hamon. Il a même dit le 27 février dernier sur France Inter qu'on pouvait très bien ne pas toute la rembourser, ce qui est incompréhensible quand on prétend présider la France, de dire au monde entier que la France ne remboursera pas toute sa dette. La dette est un dossier très, très important, puisqu'on approche les 100% de dette par rapport à notre richesse nationale créée chaque année. Donc je crois que oui, c'est vrai qu'il faut faire attention au déficit, faire attention aux dettes et qu'il faut diminuer la dépense publique. C'est pas scandaleux. Hollande l'a fait. Ça a été critiqué justement par ce que l'on appelle les frondeurs. Mais on ne peut pas faire des promesses sur la base d'un endettement.
Bernard Poignant, on comprend. Excusez-moi parce qu'il nous reste très peu de temps, Bernard Poignant. Excusez-moi, il nous reste vraiment une minute. On comprend ce qui vous oppose et on l'a vu de manière claire. Est-ce que les termes qu'on employait, que j'employais en préambule, c'est-à-dire scission, implosion, on en est où en 20 secondes, s'il vous plaît. On est, ça y est, au cœur de la scission, de l'implosion, où il y a encore de l'espoir, on peut s'entendre, malgré tous ces points qui bloquent entre vous.
On peut forcément s'entendre si on fait chacun un effort. Mais il faut faire cet effort.
Aurélie Filippetti.
Oui, on va déjà attendre le verdict urnes, parce que pour l'instant, on parle beaucoup sur des sondages, et on sait quelle est la fiabilité... c'est-à-dire faible, des sondages. On en a eu malheureusement un certain nombre d'exemples récemment. Donc attendons le vote. Moi, c'est là-dessus que je me fonde finalement, et que la légitimité de Benoît Hamon, elle se fonde sur un vote populaire lors d'une primaire. Alors une primaire n'est pas une élection présidentielle, mais nous verrons le mois prochain après le véritable scrutin.
Aurélie Filippetti, porte-parole de Benoît Hamon, député PS de Moselle. Merci. Bernard Poignant, ancien député maire PS de Quimper, ancien conseiller de François Hollande, donc soutien d'Emmanuel Macron. Laurent Bouvet, politologue et prof de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci à tous les trois. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur Inter.